pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Lorsqu'il avait 14 ans, raconte un journaliste anglais, une camarade de classe lui affirma qu'elle était à moitié vierge. Cela le troubla profondément. Il lui semblait, à l'époque, encore aujourd'hui, qu'être vierge, c'était comme être enceinte, soit on l'était, soit on ne l'était pas. De la même manière, aux kamikazes et autres candidats au suicide djihadiste, on dit que les attendent au paradis 80 houris en récompense et qu'elles sont non seulement vierges, mais perpétuellement vierges, que leur hymen se reforme en quelque sorte après chaque relation de récompense. Rarement, en effet, fiction culturelle, construction idéologique n'aura suscité autant de fantasmes, de surveillance et de contrôle que la virginité. Pourtant, sa signification sociale, religieuse et même médicale a beaucoup évolué. Chez les anciens, par exemple, l'hymen est vu comme quelque chose de rare, voire d'inexistant. Au Moyen Âge, l'hymen n'est qu'un signe de virginité parmi d'autres. Pour les penseurs chrétiens, la virginité physique, par exemple, est centrale, mais ce n'est pas le seul aspect. J'ai lu dans un traité du XIIIe siècle, où on expliquait que si la Vierge éprouvait de la jalousie, ce qui est donc mal, c'est comme si elle se prostituait avec le démon. La perte de la virginité commence donc dans l'âme et s'achève dans le corps. Jusqu'au XVIIIe siècle enfin, même si déjà la virginité est un signe moral de pureté et qu'elle garantit l'intégrité de la lignée, les médecins recommandent de la perdre le plus tôt possible. Une femme restée vierge trop tard est associée à l'idée de maladie, de mauvaise santé. L'insuffisance des rapports sexuels est la cause, sachez-le, d'une série d'afflictions comme la suffocation, une grande pâleur, l'anémie. La vieille fille devient vite folle ou malade. Aujourd'hui, bien sûr, l'importance de la virginité est très diversement appréciée, comme on sait, selon les religions, leurs formes de pratique, les pays et les coutumes. Par exemple, dans une école islamique de l'État de Victoria, le directeur de l'école a interdit aux jeunes filles de courir, car elles risquent en courant de perdre leur virginité. Ce directeur estime par ailleurs qu'il existe des preuves scientifiques qui montrent que si les filles se blessent, elles peuvent en devenir stériles. Ce n'est heureusement pas notre sujet, ni la stérilité, ni le directeur de cette école. Aujourd'hui, c'est la virginité, la perdre ou pas et comment, des histoires racontées par Alice Milo.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai 38 ans, je suis encore vierge. Comment j'en suis arrivée là? J'ai grandi dans une cité où être femme est vraiment difficile, du moins s'affirmer en tant que femme reste difficile. Tant que vous portez des jeans et des joggings, tout va bien. Le jour où vous portez une jupe, il y a un problème. Mes premiers talons, j'ai dû les porter à l'âge de 25 ans. Mais sinon, avant ça, c'était systématiquement jeans, jogging, basket. Et donc, un garçon manqué, voilà. Et à ceci s'ajoute ma culture, je suis d'origine maghrébine. Très tôt, on nous apprend que la femme, sa virginité, elle doit ne la perdre qu'avec une seule personne, son futur époux. Vous grandissez avec ça, c'est ancré, c'est dans votre tête, donc c'est vrai, enfin, vous avez cet interdit d'approcher l'autre. C'est limite si on se dit « Oh là là, il vient me parler, mais c'est mal ». Et à ceci s'ajoute le fait que j'avais un physique plutôt ingrat, obésité, je portais des grosses lunettes. Donc imaginez-vous un peu ce que ça peut représenter quand vous êtes au collège. Des insultes telles que la grosse, hein, forcément, la vache, y a bidule, les plus grosses fesses de la cité... des choses comme ça, des choses qui marquent, qui vous blessent. Pourquoi ? Pourtant, je suis comme eux, je comprends pas, je comprenais pas du moins. Et à mon entrée dans la vie active, donc vers l'âge de 21 ans à peu près, j'ai changé physiquement, hein, j'ai perdu du poids, j'ai commencé à m'affirmer en tant que femme, hein, donc à porter des bijoux, à mettre des robes, des jupes. J'ai perdu quasiment l'équivalent d'une cinquantaine de kilos. J'ai commencé à fréquenter des hommes, mais alors paradoxalement, alors que c'était un moment attendu, hein, paradoxalement, je pense avoir développé une sorte de bouclier qui a fait que à chaque fois qu'on venait vers moi, je donnais pas suite tout simplement parce que j'avais ce sentiment de fierté et de revanche sur mon passé, hein, puisque bah, j'ai changé physiquement, ah ok, je plais aux hommes maintenant, et je vais me quelque part, hein, je pense que je me vengeais d'eux, de la situation qu'ils m'ont fait subir par le passé, de toutes les insultes, les brimades que j'ai reçues, en leur disant non, je veux pas aller plus loin avec toi, non, ça n'ira pas plus loin, non, tu ne m'intéresses pas. Et je me disais systématiquement, je vaux mieux. Voilà. Les années passent et je vaux mieux. C'est comme ça qu'à 38 ans, je me suis retrouvée toute seule. Donc, jusque 26 ans, je portais cette virginité comme une fierté, hein. C'était mon identité. J'étais différente des autres, j'avais ce petit plus. Moi, tu sais, personne ne m'a touchée parce que j'attends le bon. J'en étais fière, j'avais encore ces idéaux de perdre cette virginité avec uniquement l'homme de ma vie, hein, celui qui serait le père de mes enfants. Je le vivais bien, hein, y avait vraiment aucun souci, même si autour de moi, mes copines avaient toutes perdu leur virginité depuis quelques années déjà, je me sentais pas je vais la perdre moi aussi pour être à égalité avec elles. Il n'y avait pas du tout ce problème de compétition, il n'y avait pas de compétition. Pour moi, c'était normal. Ça a commencé à être un problème à partir de l'âge de 26-27 ans, où là, je l'ai vraiment, j'ai commencé à le ressentir comme un boulet, un handicap. Depuis quelque temps, j'ai choisi les sites de rencontre. Au bout de plusieurs rendez-vous, je me sens le devoir, dans un souci d'honnêteté intellectuelle, de leur dire « je suis vierge ». J'ai 38 ans, je suis vierge. Je peux vous assurer qu'ils prennent leurs jambes à leur cou et qu'ils font demi-tour. Ils sont effrayés. Je sais pas. C'est comme si je leur annonçais que j'étais malade. C'est la même chose. Alors certains vont croire que c'est une blague, des coups de poker, des choses comme ça, mais non, je suis sérieuse. À l'annonce de cette virginité, la réaction est la même, est systématiquement la même. Où j'ai plus de nouvelles, où j'ai droit à l'AIUS, écoute, t'es une fille bien, je pense que tu mérites quelqu'un, de rencontrer quelqu'un qui soit à la hauteur de tes attentes, des phrases à l'eau de rose auxquelles je n'y crois absolument pas, ou plus. Il y en a qui vont dire clairement qu'ils ont une libido assez exacerbée et qu'il faut y aller, hein, qui n'aiment pas attendre. D'autres, ouais, t'es une fille bien, mais bon, je pense pas que je sois quelqu'un pour toi. Y en a même un qui m'avait proposé des jeux, dits sexuels, mais sans pénétration. Comme ça, je gardais ma virginité pour l'homme de ma vie. Il m'avait proposé la chose comme ça. C'est pour vous dire, bien sûr, j'ai refusé, je voyais pas trop l'intérêt. Mais lui, il ne se voyait pas clairement me dépuceler. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Lui, pour lui, c'est je te propose un jeu autour du, des jeux autour du sexe.
Il voulait pas prendre la responsabilité.
Exactement, c'est ça en fait le souci. Je pense que c'est ça le souci. Ils veulent pas prendre cette responsabilité-là. Et rien qu'à l'idée de savoir que je pourrais les faire attendre une éternité avant de me lancer dans ces ébats-là. Pour eux, c'est couru d'avance. C'est bon, celle-là, c'est pas la peine. Laisse tomber, quoi. Je sais que je pourrais le garder pour moi et les prendre en traître, quelque part. Mais je préfère être honnête. J'ai besoin que l'autre le sache. Qu'il soit délicat. Parce que moi, quand je dis que j'y connais rien, j'y connais vraiment rien, absolument rien. Ça paraît ridicule à mon âge, mais c'est la réalité. Et je préfère que l'autre le sache Je veux pas qu'il fasse de plan sur la comète, je veux qu'il sache que mes intentions sont sérieuses, hein. C'est aussi pour ça, je pense, que je le dis, hein, clairement, que si tu cherches une histoire d'un soir, mon pauvre, t'es mal barré avec moi parce que j'y connais absolument rien au niveau pratique et que je me lancerai pas avec toi comme ça. Qu'il me faudra du temps de toute façon. Je suis vierge, voilà. Mon seul et unique baiser, je l'ai eu à l'âge de 34 ans. Je me souviens à l'époque que mes collègues m'avaient annoncé l'arrivée d'un homme plutôt canon, très bel homme, qui arrive dans la société, toutes les filles se retournent, mais c'est qui, il fait quoi, il travaille avec qui, etc., etc. Bon, très honnêtement, j'y prêtais pas attention parce que je me suis dit, bon, les probabilités pour qu'il s'arrête sur moi sont tellement infimes que je tente même pas. Donc, il se trouve qu'une fois, je le croise dans l'ascenseur et il ressemble à un acteur de télé. Donc, spontanément, je lui dis, c'est dingue, on vous a jamais dit que vous ressemblez à tel acteur. Il m'a dit, je connais pas du tout, je vois pas du tout qui c'est, mais je regarderai. Je retourne à mon poste et je reçois un message. Effectivement, il y a un air. Alors là, grosse surprise, mais comment cet homme m'a retrouvé déjà? Comment il a trouvé mon identité? Parce qu'il ne savait pas qui j'étais. Et aux surprises, comment ça, il m'écrit à moi? Et donc, on discute. Après de longs échanges, il me propose d'aller boire un premier verre. Moi, je me dis, waouh, c'est un collègue de travail, il vient d'arriver, il y a toute la gente féminine qui est derrière lui. Moi, je suis là comme un cheveu sur la soupe. Je vous cache pas que j'ai appréhendé le moment. Je me suis confiée à une amie qui m'a vivement poussée à aller boire ce verre avec lui. Donc, je suis partie boire ce verre avec lui. Ça s'est très bien passé. Le soir, avant de se quitter, il a voulu m'embrasser, je l'ai repoussé. Et j'ai eu peur. J'ai pris la fuite, hein. Clairement, j'ai pris la fuite. Donc on est reparti chacun de son côté, et puis la semaine qui a suivi, il m'a proposé de faire le tour du pâté de maison, hein, du bureau, hein, ni plus ni moins. Je me suis dit non, c'est pas convenable, j'ai beaucoup de boulot, je peux pas. J'en ai reparlé à mon ami qui m'a poussé, qui a insisté pour que j'y aille, et donc en descendant, ni une ni deux, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, il m'a embrassé. Voilà. Je m'y attendais vraiment pas. Hein. On s'est arrêté, on discutait, hein, et je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, et ça a été vraiment un moment. Enfin, je considère ce moment comme magique, mais vraiment, j'ai l'impression d'être sur un nuage, tout simplement. Je sais pas, c'est doux, délicat. Je frissonnais, je me laissais aller, alors que j'ai beaucoup de mal à me laisser aller. Et là, pour le coup. Il y avait un goût sucré. J'ai perdu pied, clairement. Je me suis envolée. J'ai oublié qui j'étais, où j'étais. J'ai oublié que c'était mon collègue. J'ai eu une sensation d'apaisement. Je sais pas comment vous expliquer. J'étais partie. Pour moi, j'avais décollé. Je sais pas. J'étais dans un autre monde. C'est vraiment la rencontre comme je voudrais qu'elle se passe. Mais bien sûr, pour moi, oui, je me suis dit, ouais, c'est peut-être le début d'un truc. Et alors là, j'ai le gros lot, parce que fallait voir l'homme. Hein. Je me suis dit, ah, ça y est, c'est à mon tour, enfin ça arrive. Ouais, peut-être le début d'une histoire, mais bon, qui est vite redescendue, hein. Je suis vite redescendue sur Terre. Hein. Alors comment j'ai su? C'est simple, hein, les gens parlent, et lui, dans l'équipe où il était, il avait annoncé qu'il allait se marier dans quelques mois, que ça faisait déjà 6 ans qu'il était avec sa copine. Enfin, je suis vraiment tombée des nues. J'ai eu l'impression que le temps s'est arrêté. Je me suis dit aussi que de toute façon, c'était trop beau pour que ça arrive là, maintenant. Ouais, que c'était ma faute à pas de chance. Voilà, il est comme il est. Va falloir avancer malgré tout. Hein. Après, c'est vrai que être dans la même société, enfin être dans la société, travailler avec quelqu'un qui vous a séduite et qui vous a menti, je me suis demandé comment j'allais gérer ça. Je l'ai géré tant bien que mal. Et vraiment, gros coup de chance, cette personne est partie peu de temps après de la société. Vraiment coup de chance. Voilà. Moi, j'ai la peine parce que j'ai toujours voulu fonder un foyer. J'ai 38 ans. Mes chances de fonder un foyer, ça me nuise avec le temps. Donc oui, j'ai de la peine. Il n'y a jamais eu de flirt poussé ou quoi que ce soit. Au même titre que quand un homme m'approche, ne serait-ce qu'un collègue, quand il m'approche, s'il a le malheur de me toucher, c'est mon corps qui réagit comme ça. Je fais des bonds. Et ils ne comprennent pas. À l'intérieur, je n'ai pas l'impression d'être finie. Il manque quelque chose. Cet aboutissement, cet accomplissement, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Donc vous voyez, en apparence, une femme, mais à l'intérieur, je ne le suis pas. J'ai l'impression d'être une petite fille. À l'intérieur, pour moi, il y a une petite fille. Une petite fille dans le corps d'une femme.
Mais si vous le vouliez ce soir, vous pourriez très bien coucher avec un homme, c'est facile.
Je pourrais. Effectivement, je pourrais. Et pas qu'une fois, je me suis faite la réflexion. Hop, je me lance. Vous avez plein de sites, hein, vous avez des escort boys, etc. Je me dis, bah pourquoi pas, tiens. Comme ça, je casse le truc et peut-être que ça va me décoincer. Finalement, je me dis, ça pourrait marcher. Ben non, j'y arrive pas. Je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Je trouverais ça, encore une fois, tellement pathétique. Alors déjà que j'ai de la peine pour moi, je ressens de la pitié. Imaginez, c'est en plus... Je vais en deux minutes, j'ai envie de dire, foutre en l'air quelque chose qui quelque part m'appartient. Je vis avec. Enfin, c'est comme si j'avais fait vœu de chasteté, hein, clairement. Les fameux sex toys et compagnie, c'est hors de question. C'est tabou, tout ce milieu-là est resté tabou.
Mais votre corps ne vous réclame rien?
Il est en mode disette, je sais pas, famine, je sais pas. Il veut pas, je sais pas. Peut-être qu'un jour il se réveillera, j'en sais rien. Mais là, en tout cas, il est clairement endormi. Limite, il est peut-être même éteint. Au fond, je suis comme les autres, hein, mais bon, voilà, j'ai loupé le coche. Mais à un moment, il aurait fallu que je saute dans le wagon, je ne l'ai pas fait. On peut vivre sans sexualité, la preuve, hein, je vis sans. Mais le manque d'affection, vous dire que demain, vous pouvez être renversé par une voiture et vous dire, bah mince alors, jamais un homme m'a serré dans ses bras. Là, je l'ai mauvaise, clairement, je l'ai mauvaise. J'ai clairement raté quelque chose. Il me reste un fond d'espoir, mais c'est vraiment un fond. J'y crois pas plus que ça. Si ça devait arriver, pour moi, ce serait de l'ordre du miracle. Ah, il m'arrive enfin quelque chose. Mais ce serait vraiment de l'ordre du miracle.
Première fois donc que j'ai fait l'amour avec quelqu'un, j'arrête pas de penser à ça. Souvent, en me marrant tout seul dans le métro, dans l'autobus ou dans la rue, comme ça, je revis cette scène qui était a posteriori extrêmement comique, que j'ai vécue sur le mode tragique, mais qui maintenant apparaît tout à fait comique. Et la réalité, malheureusement, était beaucoup plus sordide. J'avais donc à peu près 13 ans et demi, quand la période de la masturbation était, s'est avérée largement insuffisante, je me suis dit, bon, ben ça y est, maintenant, je ne savais pas comment m'y prendre, je ne savais pas ce que c'était. J'avais vu des photos, j'avais vu des dessins dans les livres, mais je ne savais pas comment c'était fait, un corps de dame. Alors je me suis dit, mais il n'y a pas d'autre solution, il faut que j'aille voir. Alors j'ai volé de l'argent dans le sac de ma grand-mère, et si je lui avais demandé de l'argent pour aller baiser une prostituée, visiblement, elle serait morte d'un infarctus immédiatement. Et donc, voilà, je crois que c'était 20 francs à l'époque. Somme fabuleuse. Et elle habitait à Montmartre. Et je passais mes journées, quand je n'étais pas à l'école, à marcher à pied. C'est pour ça que je connais assez bien Paris. J'ai sillonné tout Paris à pied. J'avais parfaitement repéré les rues chaudes. Il y avait des dames avec des sacs et des bas, et des talons hauts qui attendaient. Alors, je me suis pointé à Pigalle et pendant toute une après-midi, j'ai hésité, je tremblais, j'ai dû perdre à peu près 3 kilos en sueur. Je ne savais pas comment m'y prendre. Finalement, je suis rentré dans un bar. Alors donc, je rentre là-dedans et j'avais un seul pantalon long parce que ma mère voulait absolument que je porte des pantalons courts. Alors j'avais emprunté un pantalon qui était beaucoup trop large pour moi, style Khrouchtchev, comme ça. Je me sentais très mal à l'aise dans ce pantalon. Je rentre dans le bar et comme ça, je me dis, je fantasmais que j'étais un adulte. Je me dis, je vais faire comme un shérif dans un film de cow-boy. Je vais au fond du bar et je tape avec mon poing sur le zinc, et je dis « un demi ». Mais j'ai dû dire ça avec une voix tellement étranglée d'émotion et de bizarrerie que tout le monde a éclaté de rire, parce que je vais avoir l'air d'un jeune garçon. Évidemment, il y avait ce qu'on appelle des dames, des putes qui étaient là. Alors c'était mal parti, parce que déjà, avant même que je vous l'avoue, je se foutais de ma gueule. Il y en a une qui me paraissait moins atroce que les autres. « Alors bébé, tu me payes un verre ?» J'ai fait celui qui trouvait ça drôle. Et j'ai dit, mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez boire? Ah, tu me vous vois maintenant? Bref, je ne savais rien faire comme il fallait. Alors immédiatement, elle a commencé à me dire, alors tu montes. J'avais vu dans un roman d'Henri Miller qu'il fallait discuter le fric. Combien tu prends? Elle me dit, oh, ben, je sais pas combien t'as. Alors, parce que, évidemment, elle avait vu que j'étais un môme, que j'avais pas un homme. J'ai dit, ben, j'ai 20 francs. Elle me dit, 20 balles, c'est tout ce que t'as, mais t'as de l'argent pour l'hôtel. Alors je dis, comment, il faut payer l'hôtel en plus? Alors elle m'a dit, oui, alors j'avais pas. Elle me dit, bon, ben, je vais te prendre 15 francs, puis tu donneras 5 balles à l'hôtel. Alors à ce moment-là, c'était plus les sourires, la gentillesse, c'était, allez, vite, allez, on est pressé, on n'a pas de temps à perdre. Allez, pas le temps de finir le demi, on traverse l'impasse, on monte, elle dit, salut, chambre numéro 4, elle prend une clé, elle monte, allez, hop, dépêche-toi, pas le temps de respirer. Moi, j'étais déjà complètement terrorisé, je me casse la gueule dans l'escalier en montant, elle arrive, elle me dit, donne l'argent tout de suite. Alors, je sors l'argent, j'ai tremblé, j'étais comme à l'armée, tu comprends, devant un adjudant. Alors, on me dit, allez, à poil. Alors, je commence par enlever ma chemise. Mais non, garde ta chemise, c'est seulement le pantalon. Alors, j'enlève ma chemise, j'enlève mon slip. Évidemment, j'étais dans un état complètement terrorisé. Elle va faire des remarques sur mon sexe, évidemment. Mais non, elles sont foutées complètement. Elles m'amènent vers le lavabo. Alors, elle me dit, ramène-toi. Je me sentais complètement en dehors de cette scène, comme quelqu'un qui regardait ça comme particulièrement ridicule. Bref, elle me bouscule, elle me brutalise, me jette sur le lit. Enfin, me brutalise, elle me dit, dépêche-toi, tout. Elle relève sa jupe, elle n'avait pas de culotte. Elle se met sur le lit, comme ça, les jambes écartées, en me disant, allons-y. Mais allons-y quoi? Moi, je ne savais pas quoi faire. Et puis, je ne savais pas comment m'y prendre. Et puis, je n'étais pas en érection, parce que la moindre qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas du tout désirable pour moi, ce truc-là, comme ça, dans ces circonstances-là. Et en plus, j'aurais remarqué que le dessus de lit était d'un ignoble, sale, épouvantable. Et ça puait, ça sentait mauvais, cette chambre d'hôtel. C'était pas du tout le beau rêve des mille et une nuits. Et puis elle m'a dit, allez, dépêche-toi, dépêche-toi. C'était toujours dépêche-toi. Et je me suis retrouvé dans la position du missionnaire sur cette dame. Et puis, je suppose qu'elle regardait sa montre pendant ce temps-là. Enfin, bref, ça a été une expérience absolument horrible, dégueulasse. Et j'ai remarqué une chose qui m'a terrorisé, je ne sais pas si c'est vrai ou si je l'ai fantasmé après, c'est qu'au lieu d'être doux et chaud et merveilleux, son sexe était dur comme du bois, comme du ciment. En tout cas, c'était horrible. Finalement, elle n'a même pas dit au revoir, elle s'est lavée, elle s'est barrée, elle a laissé la porte ouverte. Je me suis retrouvé tout seul dans cette chambre d'hôtel à réfléchir, mais qu'est-ce que je fous là ?
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre, la virginité, la perdre ou pas et comment, un reportage d'Alice Milo réalisé par Perret Legras. Merci à Myriam, à Louis et à Clara. La deuxième histoire que vous avez entendue était extraite d'une nuit magnétique datant du 11 novembre 1982 et signée Colette Fellouze. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des pieds sur terre. Vos commentaires, c'est sur notre site franceculture.fr à la page des pieds sur terre. Vous pouvez également partager, commenter, faire ce que vous voulez de nos émissions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez, vous devez également vous abonner à notre podcast. C'est simple, c'est facile et c'est formidable.